Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On démarre cette semaine. Alors pour les nouveaux auditeurs, sachez que un nouvel épisode est toujours disponible le mardi à 8h heure française. Donc bienvenue à tous les nouveaux auditeurs, bienvenue aux anciens également. Donc je sais pas si vous attaquez votre séance de cardio, votre petite marche, que vous allez promener le chien et que vous êtes en train de faire le ménage, je n'en sais rien. En tout cas, l'idée du podcast, c'est ça, c'est de pouvoir s'adonner à d'autres activités qui ne prennent pas trop de ressources mentales en même temps que l'on écoute. Voilà. Alors, dernière ligne droite avant les premiers repas de fête. J'imagine que comme beaucoup de personnes, vous n'avez plus juste deux repas de fête, mais peut-être trois, voire quatre, parce que famille recomposée oblige, parce que, c'est le monde moderne, hein, on se met à en faire plusieurs maintenant. Donc, c'est autant de repas comme ça, un petit peu caloriques à affronter. Alors, et moi, ce que je dis toujours, c'est faites-vous plaisir, parce que si vous faites du sport toute l'année, si vous essayez de manger sainement toute l'année, essayez de pas culpabiliser durant cette période-là. C'est quand même une période importante pour vous faire plaisir, de profiter avec de profiter, de pas vous rendre malade non plus, hein, parce qu'il y en a aussi qui tombent dans l'excès. Il faut peut-être pas trop abuser de ce côté-là, parce que si c'est pour payer la facture trop chère durant les 24 heures suivantes, c'est pas forcément quelque chose d'intéressant. Mais après, au-delà de ça, faites-vous plaisir. C'est quand même le moment de l'année où, justement, on relâche un petit peu la pression, etc. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de limiter l'impact des repas de fête sur la ligne. On va parler des produits de régime interdits et de la conséquence de la Covid sur la psychologie des Français. Voilà. Alors, avant de démarrer, si vous avez bien suivi l'actualité de ce week-end, vous avez dû voir que j'ai sorti le deuxième cours du Hard Reset Nutrition. Donc Hard Reset Nutrition, c'est sur le Hard Reset, donc ça veut dire remise à zéro des connaissances, en tout cas nettoyage de tout ce qui peut se dire et essayer de faire un petit peu le filtre, le tri sur tout ça. Et là, on parle de l'instinct, manger à l'instinct. Vous savez, cette notion de manger selon ses instincts. Quand on a envie d'une chose, on le mange, et ça pourrait amener les individus, donc vous, moi, tout le monde, à manger exactement ce qu'il faudrait et du coup avoir la meilleure forme de sa vie puisqu'on écoute ses propres instincts. Donc on débat de tout ça dans un long audio, et donc c'est comme un podcast, hein, mais sauf que c'est en partie privée sur mon site, et je vous donne les clés pour essayer de comprendre un petit peu cette alimentation intuitive ou instinctive, comme on peut dire. Et donc du coup, vous allez pouvoir l'utiliser, en tout cas d'avoir les armes pour savoir comment utiliser ça, et surtout voir si c'est viable dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà. Donc vous avez le lien dans les notes de ce podcast, vous y accédez donc par mail, peut-être que vous avez aussi reçu le mail avec le lien, je sais pas, mais en tout cas, allez y faire un tour, surtout si vous êtes friand des podcasts, vous serez agréablement surpris du contenu sur ce sujet-là, parce que visiblement on pense que c'est assez simple à expliquer, mais il y a beaucoup à dire sur la nourriture à l'instinct, sur manger de manière, on va dire, une nourriture intuitive, si je peux dire les choses comme ça. Il y a beaucoup 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 de choses à dire. Voilà. Bon, premier sujet. Psychologie des Français et Covid-19. Donc, je vais vous citer c'est un rapport, je crois que c'est un sondage qui a été fait sur un site, que je vous dise pas de bêtises, c'est le Crédoc. Donc, voilà. Donc, je vous lis, je vous cite, la partie que j'ai récupérée. Donc, les mesures de distanciation sociale mises en place pour limiter la propagation du coronavirus en 2020 ont conduit à une forte fragilisation du tissu social. Sur le plan quantitatif, en janvier 2021, 24% de la population est en situation d'isolement relationnel versus 14% en janvier 2020, soit 10 points de plus. C'est-à-dire qu'ils n'ont eu aucune, entre parenthèses, ou uniquement de très rares, rencontres physiques avec des membres de leur famille, des amis, des voisins, des collègues de travail, ou via des activités associatives. La hausse de l'isolement est généralisée, mais est plus marquée chez les personnes ayant des revenus faibles, les employés, les personnes au foyer ou les 25-39 ans. Les ménages justifient la diminution de leur vie sociale essentiellement par des raisons civiques et solidaires, davantage que par peur personnelle ou contrainte. Donc en fait, pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce que 25-39 ans, on est exactement dans la cible des gens qui m'écoutent. C'est-à-dire, quand je dis la cible, c'est évidemment, il y a des plus jeunes, évidemment, il y a des plus vieux, mais majoritairement, vous faites partie de cette tranche d'âge de 25-39 ans. Et effectivement, pour avoir discuté beaucoup avec pas mal d'entre vous lors de consultations ou autres, ouais, il y a pas mal de soucis au niveau de ça, et notamment chez les personnes qui vivent seules. Nous, on peut rajouter aussi dans le monde du fitness que, ben voilà, toutes les problématiques qu'il y a eu avec les salles de sport, à savoir que les salles de sport ont été ils ont été en seconde ligne, donc première ligne, ça a été les discothèques qui ont été attaquées, ça veut dire fermées, etc., clôturées, mis la clé sous la porte et compagnie. Et deuxième ligne, ce sont les salles de sport. Donc c'est pour ça que je disais assez récemment, je disais faites attention parce que là en ce moment c'est les discothèques qui trinquent, les suivants ce sont les salles de sport normalement, puisque quand ils regardent les courbes des impacts, les salles de sport arrivent en deuxième position. Donc forcément, pour beaucoup, évidemment, quand on est dans une routine de vie, on parle hors Covid, hein, je vous parle avant. Pour beaucoup de personnes, la salle de sport était l'endroit où ils avaient leur relation avec le monde extérieur, entre guillemets, autre que leur boulot ou leur maison. Donc, je parle à la maison, peut-être qu'ils avaient ils ont leur femme encore et leurs enfants, c'est très bien. Donc ça les aide à tenir le coup. Mais pour ceux qui n'en ont pas, la salle de sport était ou est le seul endroit où ils avaient des échanges, etc. Donc c'est vrai que quand on s'attend pas à une crise comme ça, on se pose pas trop de questions, ça nous maintient un petit peu dans la vie sociale, mais dès que ce genre de situation arrive, bah, du jour au lendemain, ce sont des personnes qui ne vont plus avoir justement ces échanges. Et au niveau psychologique, il faut savoir une chose, c'est que c'est extrêmement pénalisant. Alors je sais, pour beaucoup d'entre vous, vous avez l'impression d'être plutôt des gens solitaires. Moi-même, j'en fais partie, je me juge plutôt comme quelqu'un qui se ressource seul et qui s'épuise en groupe. C'est ce qu'on appelle, vous savez, en psychologie, les introvertis ou les extravertis. L'introverti a tendance à se ressourcer seul et à s'épuiser en groupe, et l'extraverti, c'est plutôt l'inverse. Il va plutôt récupérer de l'énergie en groupe et s'épuiser quand il est seul, en tout cas en perdre. Donc, il n'y a pas d'idéal, hein. Il y en a qui cherchent à dire « mais mieux vaut être l'un ou l'autre ». Non, non, et en fait, l'idéal étant d'identifier sa dominante, et à partir de là, se dire « ok, donc comment je peux faire pour essayer de grappiller un peu de mon opposé ?» C'est-à-dire par exemple, pour l'introverti, comment je peux faire pour avoir, en même temps, dans un groupe, de tirer de l'énergie, en fait, pour pas se priver du monde, etc. Donc, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ont très bien vécu le confinement, seul, isolé et tout, mais ça peut avoir quand même un impact négatif au niveau psychologique. C'est une donnée qu'il faut avoir en tête, hein, parce qu'on en, j'ai pas vu, il y a quelques psychologues qui en parlent, mais c'est, il faut quand même aller les chercher. Je trouve ça assez étrange d'ailleurs qu'on n'en parle pas suffisamment. On pourrait peut-être permettre à plus de psychologues d'intervenir pour donner des conseils, pour essayer d'expliquer un petit peu, parce que une partie des problèmes, en tout cas de la souffrance, si je peux dire les choses comme ça, se comprend et se gère quand on apprend que d'autres la vivent. En fait, la pire chose, c'est de se sentir seul dans une situation. Et là, de savoir que, ben voilà, globalement, ça a augmenté de 10 points Donc il y a une bonne part de personnes qui en ont payé la facture. Alors moi je pense que c'est même plus, hein, mais bon après je pense ne veut rien dire. Je me fie aux chiffres que je vous ai donné tout à l'heure. C'est quand même quelque chose, voilà. Donc les salles de sport, si vous y avez accès, ça peut être intéressant de s'y remettre, mais c'est également vous savez, toutes les habitudes, on a été quand même conditionné à pas s'inviter, à pas faire de choses en groupe, etc. Et j'ai comme l'impression que on perd assez vite l'habitude de ce genre de choses. Alors encore une fois, je sais qu'il y a des personnes qui ont été carencées en sortie et tout ça et qui ont vite repris le chemin de leurs activités sociales, mais il y en a d'autres qui ont visiblement perdu l'habitude. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'avant, ils faisaient peut-être un repas avec des amis tous les week-ends, mais là, c'est peut-être un petit peu plus distancé, 15 jours, 3 semaines. Donc ce genre de choses, il faut juste en prendre conscience et se dire que c'est normal, en fait, que le moral soit à la baisse quand les échanges, quand il y a moins de rencontres physiques. En fait, c'est normal, c'est expliqué, tous les psychologues le reconnaissent. La vie sociale est très importante pour l'équilibre émotionnel, quoi. Et ça passe aussi par les activités sportives, parce que quand on fait du sport régulièrement, on fréquente d'autres personnes, à moins qu'on aille courir seul et qu'on s'entraîne seul chez soi. Mais je veux dire, sinon, si on fait même un sport comme la musculation, qui est un sport assez individuel, on fréquente logiquement des partenaires d'entraînement, etc., en salle. Et j'ai même des personnes avec qui j'ai discuté qui ont fait des home gym, mais des home gym entre guillemets partagés, c'est-à-dire qu'ils se sont soit loué un local, soit aménagé un des garages, et puis entre voisins, ils se retrouvent pour faire la séance. Je trouve ça hyper intelligent, en fait, pour justement recréer ce truc. Donc je vous invite, ça c'est vraiment le conseil par rapport à ce sujet-là, si vous avez la possibilité d'avoir, vous, chez vous, un home gym bien équipé, ben faites-en profiter le voisin, quoi. Si vous entendez bien avec le voisin qui est un peu sportif et tout, ça peut être intéressant de vous donner rendez-vous régulièrement pour vous entraîner, ou même un pote qui n'a pas de home gym, qui habite pas loin, et ben voilà, vous pouvez vous donner rendez-vous pour faire ce genre de choses, quoi. Ça, en tout cas, moi ça me semble cohérent et surtout, voilà. Enfin moi je sais que c'est toujours une chose que j'ai pu faire régulièrement avec. Avec un pote, on se rejoint sur un parcours de santé pour se faire notre action, etc., et se mettre un peu dans le rouge ensemble. Alors, c'est une séance à la fois d'entraînement, mais à la fois où on est à deux, quoi. Donc, c'est pas la même chose que seul. Voilà. C'est important, je pense, d'en parler, parce que, encore une fois, pour clôturer ce sujet, les gens ont toujours tendance à penser que c'est que eux et que les autres le vivent mieux, en fait. Mais tout le monde a un masque, hein, dans la vie. Et tout le monde met un masque pour dire « Ah non, moi ça va, pas de problème et tout », sauf que ce sont des choses qu'on ne détecte pas forcément. Il n'y a pas un gros voyant rouge qui clignote pour dire « Attention, isolement social », quoi. Donc voilà. Bon, deuxième sujet, c'est sur les produits de régime interdits en France. Alors, j'ai été assez surpris. Je connaissais même pas, d'ailleurs, hein. Je vais vous le dire honnêtement, je connaissais pas. Donc là, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai récupéré. Donc, alors le titre, c'est « Les produits anti-obésité sur Internet interdits ». Donc encore une fois, vous avez tous les liens en note d'émission, hein. Alors en France, 17% de la population adulte est obèse, selon le ministère des Solidarités et de la Santé, un pourcentage qui représente plus de 8 millions de personnes. Donc 17% de la population adulte est obèse. Il parle pas de surpoids, il parle d'obésité, donc il faut compter après toute la part des gens qui est en surpoids. 17%, c'est pas mal, hein, quand même, hein. On n'est pas dans des petits chiffres, hein. 17% de la population. Voilà. Bon, ce que j'avais récupéré, c'est qu'en fait, il y a des produits qui ont été interdits parce que visiblement, alors ils disent des produits qui n'ont pas obtenu d'autorisation de mise sur le marché. Alors les molécules qui donnent, alors ils disent pour maigrir certaines personnes et c'est plusieurs méthodes, des régimes, activités physiques, pose d'un anneau gastrique, mais aussi d'autres solutions parfois proposées sur Internet comme des produits injectables pour lutter contre l'obésité composés de phosphatidylcholine et ou de déoxycholate de sodium. Mais ces derniers viennent d'être suspendus par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, donc l'ANSM. Leur dangerosité est mise en cause. Alors ils disent là, nous informons les personnes ou professionnels qui souhaitent en commander sur Internet que ces produits sont potentiellement dangereux pour la santé et qu'aucune étude clinique n'a été menée pour démontrer leur efficacité, a indiqué l'ANSM dans son communiqué. Ils disent aussi des effets secondaires dangereux possibles. Donc ces complications, alors ils parlent de quoi ? En 2012, technique appelée lyse adipocytaire par laquelle le phosphatidylcholine et le déoxycholate de sodium sont injectés aux patients avait été déjà interdit par le ministère de la Santé. Les raisons évoquées étaient sanitaires. En effet, ces produits étaient soupçonnés de produire des effets indésirables tels que des infections cutanées, des hématomes étendus ou encore des nécroses, c'est-à-dire une destruction de certaines cellules. Ces complications ont pour certaines été suivies de séquelles invalidantes, douleurs chroniques, mobilité réduite et esthétique, développe la NSM. Si vous observez un effet indésirable après une lyse adipocytaire, nous vous invitons à prendre rapidement rendez-vous avec votre médecin traitant en lui expliquant l'acte pratiqué afin qu'il évalue les risques pour votre santé. Bon, encore une fois, vous savez, enfin, je peux comprendre, et je vous donnerai un exemple concret tout à l'heure, mais je peux comprendre. On vit quand même dans un monde de problèmes et solutions. Alors, vous et moi, on ne peut pas percevoir ce genre de discours comme... en fait, ça nous paraît étrange quand on entend des gens qui vont s'injecter quelque chose pour maigrir. On a une forme de compréhension de la perte de poids, du régime, du sport et tout. Et on sait bien qu'un truc à s'injecter... on voit pas bien comment ça peut, sans faire d'effort à côté. En fait, on voit bien que les bodybuilders pros, même eux qui ont pas peur, ils ont pas froid aux yeux de s'injecter tout ce qui passe. Je parle pour ceux qui le font, hein. Il y en a qui le font pas, mais je parle de ceux qui le font. On voit bien qu'ils sont quand même obligés de faire des régimes et de s'entraîner à côté. Donc, il y a une forme de naïveté puissante, notamment en France, j'ai l'impression, avec produits chimiques ou produits ou même compléments alimentaires et résultats. J'ai une anecdote à vous donner. Je me souviendrai toujours d'une pote, on va dire comme ça. Je vous dirais pas une amie parce qu'elle est pas assez proche, mais une pote lors d'un barbecue qu'on faisait à midi. On était plusieurs amis et donc c'est la femme d'un pote. Et elle me dit Théo, là je vais devoir perdre les kilos de ma grossesse, mais vu que je ne peux pas faire de sport, il faut que tu me donnes un complément alimentaire que je peux prendre régulièrement, mais sans faire de sport pour maigrir. En fait, là où j'ai bugué, je me suis dit, mais elle me pose des conditions comme si elle maîtrisait, en fait, elle pensait que ça existait. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont convaincus que ce genre de choses existent. Mais en fait, si ça existait, il n'y aurait pas d'obésité, les gars. Donc, je vous le dis, si ça existait, quelque chose sans effort, une pilule naturelle, hop, vous le prenez, ça n'existe pas. En fait, le discours des gens, c'est comme s'il y a un truc comme ça qui existe, mais ça doit être un peu secret, un peu caché, mais lui, vu que c'est son travail, il doit le connaître. Non, en fait, la seule chose, c'est moi, le seul outil que j'ai, c'est beaucoup de pédagogie et beaucoup de vulgarisation pour essayer de te simplifier, de te faire comprendre quelque chose qui parfois peut paraître complexe. C'est tout. C'est juste ça. Et d'avoir les mots pour savoir te motiver et te donner une raison de bouger. Mais il n'y a pas de compléments alimentaires qui vont t'aider. Donc ça a été compliqué, hein, de lui expliquer avec des mots, de lui faire comprendre. Enfin, c'est un peu comme si moi je vous disais, j'allais voir quelqu'un de blindé qui a bien réussi dans les affaires et tout, et lui dire, bah toi qui as réussi dans les affaires, c'est ton travail. J'aimerais que tu me donnes une solution pour m'enrichir, mais par contre, je peux pas arrêter mon travail, donc je veux pas travailler. Je veux juste que tu me donnes une astuce pour m'enrichir. Mais non, mais en fait, tu peux poser un souhait, mais tu peux pas mettre en même temps que ton souhait mettre trop de barrières. En fait, la barrière ne peut pas être sur le cœur du sujet à traiter. C'est-à-dire que je veux faire du sport, mais je peux pas sortir de je sais pas. Je veux aller courir, mais je peux pas sortir de chez moi. Non, mais à un moment donné, oui, tu vas peut-être pouvoir courir sur place ou dans ton petit espace, mais c'est pas une bonne solution, quoi. C'est toujours ce genre de choses. Les gens, ils ont cette résistance au changement. Donc la résistance au changement, c'est ils savent très bien. J'en ai plein des anecdotes comme ça. J'avais aussi un, je vais pas dire un partenaire d'entraînement, mais un collègue de salle qui m'avait dit, bon, ben, il s'entraînait et tout ça. Il me dit, je veux vraiment être sec, là. Je veux vraiment des abdos, Théo. Comment je peux faire? Mais bon, me parle pas de nutrition, hein. C'est bon, hein. J'en ai entendu assez comme ça, mais c'est pas parce que t'en as entendu assez qu'il faut pas que tu le prennes au sérieux, en fait. C'est justement pour ça qu'il faut que tu le prennes au sérieux. C'est parce que tu veux pas t'y attarder. Arrête de t'acharner sur l'entraînement. Tu fais déjà très bien. C'est juste que ton dernier levier d'action, ça va être la diète. À un moment donné, il faut regarder les choses en face, quoi. Bon, pour revenir un peu au thème, on voit que ça s'arrêtera jamais par rapport à ces produits de régime. Donc là, ceux-là, je les connaissais même pas, hein, honnêtement. Enfin, moi, c'est pas du tout l'actualité que je suis. Là, je le fais pour le podcast, parce que je regarde les news, si vous voulez, mais je savais même pas qu'il y avait des choses comme ça qui existaient en injectable. Et quand il parle de professionnels, il me semble, et ça veut dire quoi? Que ce sont des personnes dans le domaine de l'esthétique. Donc, c'est quoi? Plus des chirurgiens esthétiques, des gens comme ça? Je n'en sais rien, en fait, hein, ou des médecins qui feraient ça. Ça me paraît encore une fois étrange. Surtout que, on le sait, tous ces compléments alimentaires, voire médicaments, c'est très, très, très souvent mis en parallèle. Ils disent mais attention, à côté, il faut quand même bien manger, faire du sport. C'est un peu, vous savez, comme les brûleurs de graisse. Les brûleurs de graisse un peu populaires qu'on vous vendait il y a quelques années, peut-être toujours aujourd'hui d'ailleurs, sous forme de gélules. Donc globalement, c'était des stimulants. Hein. Il y avait du thé vert ou de la caféine dedans, ou du guarana, des choses comme ça, voire des formules un petit peu plus complexes avec d'autres compléments alimentaires dedans, enfin d'autres micronutriments. Mais bon, bref, globalement, ça allait pas bien loin. Mais ils vous disaient souvent que pour que ça fonctionne, et notamment sur les trucs style télé, achat et tout, il disait, en parallèle, mais il mettait en petit ça, en parallèle d'une alimentation équilibrée et de X heures de sport par semaine, etc. Mais finalement, les gens, quand ils suivaient le protocole complet, ils avaient des résultats. Mais c'était... En fait, la pilule n'était qu'un placebo. Moi, j'appelle ça des pilules de motivation, en fait, parce que le fait de prendre la pilule, ils se disent bon bah il faut que je fasse le régime un petit peu aussi, un peu le sport à côté. Mais c'est ça qui marche, en fait. C'est pas la pilule, elle y est pour rien. Elle est juste là pour donner, en fait, comme un ancrage à faire les choses. Et c'est pour ça que quand j'ai des personnes à chaque fois qui me disent qu'est-ce que tu penses des brûleurs de graisse, bah j'en pense que c'est en fait ça sert strictement à rien. Si tu fais pas de régime à côté, en fait, les effets de ce genre de choses-là, ça peut être intéressant quand vraiment tu fais un régime et tout, pour avoir un petit peu plus d'énergie peut-être, parce que souvent c'est stimulant. Mais en fait, ça s'arrête là, quoi. C'est-à-dire que sans régime, tu vas te stimuler, mais stocker du gras quand même. Et avec un régime seul, sans ça, tu vas quand même perdre du gras. Donc en fait, dans les deux cas, c'est à rien vraiment, quoi. Mais bon, pour certaines personnes, ça peut avoir un effet pilule motivante. Donc c'est juste, en fait, là-dessus, parce que moi, les produits dont tu parles là, je les connais pas et ça m'intéresse vraiment pas du tout. Mais on voit bien que on n'est pas prêt de s'en sortir, en fait, avec ça. Là, ils donnent l'essentiel. Ils disent encore, il y a deux notes dedans. Ils disent en 2015, le surpoids ou l'obésité concernait 16% des garçons et 18% des filles âgées de 6 à 17 ans. En 2020, selon l'Organisation mondiale de la santé, le surpoids et l'obésité affectent plus de 2 milliards d'individus dans le monde. En fait, on voyait la courbe, là je regardais, je sais plus dans quel, c'était sur, je sais plus où c'était sur, dans la news VIP, ou est-ce que j'en parlais, je me rappelle plus. Mais bon, on voyait que par exemple, il y avait des courbes, là où est arrivé le sirop de fructose. Donc le sirop de fructose, le sirop de fructose qu'on utilise dans toutes les préparations, en fait, hein, celui tiré du maïs, aux États-Unis notamment. Enfin, pas notamment, mais là où il y en a le plus, en tout cas, c'est parce que c'est subventionné là-bas. On voit la courbe qui démarre avec la courbe de l'obésité qui démarre en même temps. Donc, on voit bien qu'on essaye de corriger un problème qui prend beaucoup de place, et c'est pas un mauvais jeu de mots que je fais. L'obésité prend de plus en plus de place dans notre société, le surpoids également. Et on a, mais peu de recommandations pratiques sur le sujet. C'est-à-dire qu'on essaye par tous les moyens de trouver des solutions annexes à bien manger et à se bouger plus. Mais je pense que c'est peine perdue. En fait, si vous voulez, j'ai l'impression que le discours ambiant est un peu comme les choses qu'on reproche, vous savez, aux gens qui vous disent « Vous voulez être milliardaire en travaillant une heure par semaine ?» Ben voilà ma recette magique. Et ben, on est dans la même chose, mais version mondiale, en fait, actuellement. C'est-à-dire que tout le monde essaye de proposer sa petite astuce et tout ça pour justement avoir des bons résultats tout en se passant de ce qui fonctionne vraiment, quoi. Et moi, je pense qu'il faut accepter à un moment donné les échecs et les erreurs. Il y a eu des erreurs et des échecs. Il y a eu des mauvaises décisions qui ont été prises par rapport à l'alimentation, aux recommandations au niveau de l'alimentation. C'est pas grave. Il faut l'avouer. Il faut qu'ils l'avouent. Même les grandes institutions, les trucs de l'État, j'en sais rien, qu'ils l'avouent, qu'ils l'acceptent. On le tolérera. C'est pas grave. Plutôt que d'essayer de coûte que coûte continuer dans cette lancée et de dire non, on se trompe pas, et de croire que parce que s'ils acceptent une fois qu'ils se sont trompés, on va plus jamais les croire. On s'en fout. Mais par honnêteté, par exemple, toute cette histoire du sucre, c'est bon, et le gras, c'est pas bon, comme ça s'est fait dans les années, alors je vais être généreux, 70, 80, 90, 2000, on va dire, accepter publiquement, ou en tout cas de... Parce que on voit bien que les gens qui sont avertis savent que les glucides, que le sucre et tout, c'est pas bon. Mais chez les personnes, donc eux, ça sert à rien de les convaincre, ils sont déjà allés chercher leurs informations, ils ont trouvé les réponses. Donc vous, moi, tous ces gens-là, on a bien vu, on fait du sport, on sait comment gérer un petit peu notre diète et tout pour que ça fonctionne. Mais imaginez les gens, vous avez déjà parlé à des personnes de votre entourage qui ne sont pas du tout dans ce milieu, ils sont encore convaincus que l'avocat, ça rend obèse, que le jaune d'œuf, ça vous fait crever de cholestérol en moins de deux, que si tu manges un œuf par jour, tu vas crever, ils sont convaincus que le sportif, il doit se gaver de riz, il y a encore ces croyances qui traînent. Et on pourrait faire un tout petit peu de pédagogie. Je veux dire, même écouter mon podcast, c'est trop le niveau, même si mon niveau là en podcast, on parle d'actualité, de sujets légers, c'est déjà trop relevé pour des gens comme ça. Il faudrait de l'éducation vraiment basique, parce qu'en fait l'éducation qui s'est faite pour ces gens là c'est pas de l'éducation du gouvernement, hein. C'est le marketing des produits de consommation qui leur a ancré ce genre de choses, hein. Manger de la margarine plutôt que du beurre, manger telle chose plutôt qu'autre chose, c'est pas du tout des recommandations, c'est pas quelqu'un, un médecin qui a pris la parole au JT dans les années 80 pour dire il faut manger ça et pas ça. Ça a été c'est du bourrage médiatique, mais sous forme de publicité, de peut-être de reportage, et encore j'en doute, hein. Voilà. Sujet de société, toujours intéressant à débattre, mais en tout cas, on n'en sort pas, hein. Ça évolue, c'est pas prêt de revenir en arrière. Bon, on termine avec les produits, les produits, c'était maintenant, donc les conseils d'une championne IFBB pour passer les fêtes sans trop ballonner. Donc, cette championne s'appelle Ashley Kaltweiser, donc je sais pas comment on prononce, bref. Donc, elle donne plusieurs tips, et on va voir si je suis d'accord avec elle. Donc, pour passer les fêtes, etc. Donc, mettez une petite portion dans votre assiette. Premier conseil, ça part mal, je vais dire, parce que, alors, si c'est pendant les fêtes, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que moi, pendant les repas de fête, je me vois pas, c'est pas parce que je me vois pas que tout le monde doit faire pareil, mais je trouve ça étrange de devoir manger des petites portions durant les fêtes. Non, mangez des portions normales, en fait. Vous mangez à votre faim les repas de fête. Ça, c'est mon point de vue. Après, évidemment, si vous avez 10 repas de fête différents, effectivement, là, il faut commencer un petit peu à vous dire, bon, je vais pas trop non plus abuser parce que je vais avoir 15 fois du foie gras, 30 fois du beurre avec du saumon, j'en sais rien, mais bon. Là, oui. Mais si vous faites globalement, quelques repas de fête, pas sans trop abuser sur le nombre. Je suis pas pour les petites portions. Manger lentement. Oui, là je suis tout à fait d'accord. Et pourquoi? C'est moi qui détaille, mais l'idée de manger lentement, ça va vous faire monter plus rapidement. Enfin, plus rapidement. Vous allez percevoir votre satiété et donc du coup moins ingurgité. C'est-à-dire que si vous mangez rapidement, c'est un peu vous presser avant que c'est un peu comme quand de vous presser de faire quelque chose avant de vous faire choper. Ben là c'est la même chose en fait. Vous mangez vite avant de vous faire attraper par la satiété. Donc vous mangez. Donc là, l'idée étant de manger plus lentement, et ça vous évitera justement d'avoir cet appétit démesuré dans la vitesse. Donc mangez lentement. Mangez lentement, ça permet également, il faut savoir une chose, c'est que les repas de fête, pourquoi on mange beaucoup? C'est parce qu'il y a beaucoup de choix. Plus vous avez de choix devant les yeux, plus vous avez envie de tout goûter. C'est la problématique du buffet à volonté. Vous savez, vous allez au restaurant normal, vous allez manger entrée plat dessert ou plat dessert ou entrée plat, je sais pas ce que vous faites. Moi, en général, c'est plat, café gourmand. Mais quand vous allez à un resto à volonté, type asiatique ou type peu importe, le flunch ou j'en sais rien, vous vous rendez compte que vous mangez deux fois plus, parce que pourquoi? Vous avez envie de tout. Il y a tellement de choses que vous avez envie de tout. Et l'appétit est aussi dicté par le nombre d'options que vous avez devant les yeux. Si vous avez riz blanc, brocoli, blanc de poulet, vous allez voir que vous aurez plus faim assez rapidement. Mais si je vous amène un plateau de fromage, vous allez peut-être du coup avoir un petit appétit naissant pour le plateau de fromage. Donc la diversité va faire que vous allez avoir une curiosité, du désir, circuit de la récompense et compagnie, et donc manger plus. Donc manger lentement, ça c'est une bonne chose. Si c'est vous qui préparez les repas de fête, préférez des aliments que vous adorez et de pas multiplier un petit peu comme faisaient les anciens, où vous aviez la dinde plus le machin plus le truc pour comme plat du jour. Donc essayez d'avoir, moi je sais que pendant les fêtes, c'est un plat principal, une entrée, un dessert. J'ai pas deux plats principaux, quatre entrées et cinq desserts différents. C'est toujours comme ça. Regardez, ne serait-ce que pour le dessert, quand vous avez plusieurs desserts. Donc, il va y avoir un dessert aux fruits et un dessert au chocolat. C'est souvent comme ça qu'on fait. Et puis, vous prenez une part au chocolat et puis, vous êtes peut-être tenté quand même de goûter le dessert aux fruits aussi. Alors que s'il n'y avait que la version chocolat ou que la version fruits, vous auriez peut-être pris qu'une seule part. Donc, c'est pas vous brider que de manger comme ça, c'est juste d'être plus cohérent. Le mieux, c'est d'aller à l'essentiel, à ce qu'on aime, quoi. Bon, manger lentement. Voilà, ça, je suis d'accord avec elle. Donc, elle a dit buvez un gallon d'eau minimum pour aider à la digestion et minimiser la rétention d'eau. Alors, ça, aux États-Unis, un gallon, je sais plus combien ça fait, mais je crois qu'un gallon, on est entre 3 et 5 litres, non? Je vais regarder. Alors, gallon, je tape en même temps. Gallon, litre, combien ça fait? Un gallon, ça fait 3,785 litres. Non, un gallon, ça fait 3,7 litres, quoi. Donc, buvez minimum ça. Après le repas de fête, c'est ce qu'elle recommande. Bon, moi, je vous dirais de boire beaucoup, en fait. Boire beaucoup, de boire un peu plus, déjà. De toute façon, logiquement, pendant les repas de fête, vous allez avoir plus souvent soif, parce que vous allez manger certainement plus salé, donc la soif va être un peu plus, naturellement plus stimulée. Mais c'est vrai que de boire régulièrement, et surtout si vous buvez de l'alcool pendant les fêtes, il y a une forme de déshydratation, mais c'est surtout la charge acide des repas de fête est plus importante, et de boire un peu plus d'eau, ça aide un petit peu à tamponner. Alors l'idéal étant, mon conseil que je vous donnerais, c'est d'essayer, même si vous mangez vos plats de fête et tout, vous aimez ça, et tant mieux, parce que moi je vais le faire aussi, essayez d'avoir un apport en légumes pour essayer de tamponner un peu la charge acide de votre alimentation. Vous savez, quand vous regardez les assiettes dans les films et tout, Thanksgiving, Noël et tout, ils ont très souvent des ignames, de la patate douce ou des haricots verts, des choses comme ça, ou des asperges durant les fêtes. Prenons exemple et mettons aussi du vert dans nos assiettes de fête, parce que ça aide un petit peu à tamponner la charge acide de du repas. Mais buvez, là je suis assez d'accord. Alors minimiser la rétention d'eau et aider à la digestion, oui, mais c'est surtout pour s'hydrater correctement, quoi, parce que la nourriture salée et tout ça, et puis l'alcool aussi pour ceux qui boivent, ça a tendance plutôt à déshydrater. On n'hydrate pas bien ces cellules avec du pinard, quoi. Alors engagez-vous dans les tâches et autour de vous, donc j'imagine, oui, engagez-vous, ça veut dire que mettez-vous en mouvement, quoi, par rapport aux événements des fêtes et tout. Donc ça, je suis plutôt d'accord, de rester actif. Commencez votre journée avec une séance d'entraînement de haute intensité pour vous sentir bien dans votre peau dès le début. Alors, si vous avez le luxe et que vous êtes en vacances, effectivement, ça peut être une très bonne astuce de démarrer la journée par une activité sportive. Pourquoi? Alors, haute intensité ou séance de muscu ou cardio. Enfin, moi, je serais pas aussi... haute intensité, c'est bien parce que vous tapez fort, vite, et au moins, après, vous êtes tranquille. Moi, ce que j'aime bien, en fait, dans le sport en début de journée, pendant les périodes de vacances, c'est que quand on pratique une activité physique, on a plus d'intérêt à pas déconner. C'est-à-dire que admettons, vous avez un repas de fête le midi. Si vous faites votre séance le matin, puis un petit déjeuner, vous allez le petit déjeuner après votre entraînement, déjà il va être déjà mieux métabolisé, mais c'est surtout que vous aurez peut-être moins envie de manger n'importe quoi. Donc vous aurez tendance, en faisant du sport, et ça c'est de l'observation pure, à avoir plus sain les repas hôtes que ceux de fête. Alors que quand vous êtes livré à vous-même, plus de sport et tout, souvent les gens sont un peu comme des métronomes, quoi. Soit ils sont d'un côté, tout va bien, ils font tout le sport et tout, enfin c'est tout est bien réglé, et soit quand ils bouleversent le rythme, bah ils font tout mal, quoi. Donc c'est toujours l'un ou l'autre dans l'excès, quoi. Donc le sport aide quand même. Enfin, tous ceux qui ont fait du sport plus un régime ont trouvé ça plus simple de faire que le régime ou que le sport. C'est-à-dire que l'un encourage l'autre. Et quand vous ne pouvez plus faire du sport, vous avez beaucoup de mal souvent à suivre une diète saine parce que souvent ça va de pair, quoi. Donc voilà. Donc commencez la journée avec une séance de haute intensité ou de muscu ou de cardio, pourquoi pas. Bon, bougez-vous en fait en début de journée, faites une petite séance, ça peut être bon. Alors si vous êtes à une fête, éloignez votre conversation des collations, etc. à table. Ouais, donc ça, je pense que c'est plus de l'ordre psychologique. Alors c'est de la traduction anglais-français, donc c'est pas top, mais oui. Bah c'est vrai que quand on est à un repas de fête et que vous savez, il y a plein de choses sur la table et qu'on discute entre amis, on est content. On a fini de manger depuis un certain temps, mais s'il y a encore les papillotes qui traînent, on peut avoir tendance à en reprendre. Il est vrai que de ne pas rester à côté du saladier d'M&M's, pour reprendre l'étude scientifique qui a été faite, c'était justement avec des saladiers d'M&M's, moins vous serez à proximité, moins vous aurez de chance de taper dedans. Mais ça, c'est une évidence. Après, c'est aussi le moment où vous pouvez en profiter. Donc, vous vous rendez pas malade, mais c'est vrai que sachez que plus vous êtes éloigné de l'aliment en question, moins vous aurez de chance de taper dedans, quoi. Alors elle dit prenez un supplément de fibres pour faciliter la digestion. Ouais. Alors mangez aussi des fibres, hein, pas forcément les suppléments, mais il y a le psyllium qui est pas mal pour la digestion, donc ça je sais que c'est pas mal utilisé. Donc pour les fibres pour le transit. Donc mais c'est beaucoup pour la constipation et tout ça, hein, le psyllium. Mais prenez un supplément de fibres. Alors il faut savoir aux États-Unis tout ça c'est beaucoup plus commun, hein, de prendre des fibres et tout. Nous en France prendre des fibres, ah bon lesquelles on en trouve où les, enfin machin. Moi je sais pas, j'utilise à la limite que du psyllium. Enfin je vois que ça en complément alimentaire. Enfin non, il y a pas que ça, hein, en France, hein, mais je d'intéressant, moi je vois que ça pour le transit. Après il en existe d'autres, hein, évidemment, mais moi c'est surtout celle-là, je sais que j'en ai déjà pris et que c'est assez intéressant. Alors moi c'était surtout, vous savez, quand vous êtes en fin de régime type diète sans glucides, etc., où il commence à y avoir de moins en moins de fibres, ou en tout cas les seules fibres qu'il y a c'est provenant des légumes, et vous savez que c'est pas nécessairement suffisant, il faut des fibres autres que celles des légumes, et ben de prendre un petit peu de psyllium aide à avoir un transit plus régulier, quoi. Parce que déjà vous mettez au régime, vous baissez la charge, donc la masse intestinale, donc pour le transit c'est pas bon, mais en plus si vous manquez de fibres ça peut bloquer un petit peu. Donc pour avoir un transit un peu plus fluide au régime, en tout cas un petit peu mieux réglé, je sais que le psyllium aide beaucoup, les naturopathes le recommandent. Alors faut faire très attention par contre, parce que si c'est pris en même temps que des médicaments, ça peut poser problème. Alors je crois qu'il y avait ça, il y avait pas le charbon aussi, le charbon activé, mais le charbon c'est pour autre chose. Mais faut faire attention avec la prise de médicaments, donc ça vous voyez avec votre toubib si vous prenez un traitement. Donc faites une promenade ou un entraînement cardio-résistance avant et ou après votre repas de fête. Il est vrai que quand vous vous entraînez si vous vous entraînez fort, c'est ce que je disais il y a des années par rapport au cheat meal. Je disais bah faites un entraînement fort. Moi c'est ce que je faisais, faire un gros entraînement de muscu bien violent, puis derrière le cheat meal, bah c'est un peu normal parce que les récepteurs, enfin vous savez au niveau de la synthèse du glycogène et tout, ça sera plus intéressant d'avoir des muscles qui viennent de travailler. Donc potentiellement ça fera moins de calories entre guillemets, si je peux dire la chose comme ça, redirigées vers le tissu adipeux, mais plus vers le glycogène. Au niveau des muscles, donc, et au niveau hépatique, ça de toute façon c'est un peu automatique, mais surtout au niveau de la masse musculaire. Donc forcément quand vous vous entraînez proche d'un repas de fête et tout ça, vous aurez plus de chances d'en faire quelque chose de bien. Enfin, en tout cas, d'une part du repas, en faire quelque chose de bien. Mais faut pas rêver. Le glycogène, c'est pas en fonction de ce qu'on lui donne. Le glycogène, il a une limite à sa synthèse. Et s'il y a trop, il y a trop. Donc, c'est toujours mieux de le faire. Je suis assez d'accord. Donc, un entraînement autour de ça. Mais encore une fois, faut avoir le luxe, la liberté de pouvoir le faire. Et moi, personnellement, je vous le dis, après un repas, typiquement le 25 au midi, vous faites un repas de fête. Moi, derrière, j'ai pas envie d'aller faire ma séance de squat. Donc, à la limite, avant, oui. Mais bon, ça revient à faire sa petite séance de haute intensité le matin, quoi. Voilà. Considérez votre corps comme une machine plutôt que comme une benne à ordures. Donc ça, c'est son dernier conseil. Ouais. Mais bon, je pense que dans tout le temps, je pense que personne considère son corps comme une benne à ordures. Après, considérer comme une machine, c'est vrai que, et il faudra que je parle de quelque chose dans pas longtemps, mais je vais pas vous le révéler maintenant parce que j'ai pas envie que j'aime pas parler avant. Là, je suis au début de mes recherches sur le sujet, donc il faut vraiment que j'ai quelque chose de vraiment stable à vous proposer pour pouvoir en parler. Mais c'est vrai, la nourriture impacte votre fonctionnement. Donc forcément, ne voyez pas votre corps forcément comme une machine, mais votre corps a un carburant. Voilà. Et voyez plutôt ça comme ça. Votre corps fonctionne avec un certain carburant. Et évidemment, tout ce qui est du règne de la bouffe transformée et tout, c'est un carburant de pacotille, c'est-à-dire qui va vous conduire à l'usure prématurée. Voilà. Alors qu'un bon carburant vous permettra de mieux fonctionner, d'être plus fort, etc. Enfin bon, vous connaissez la chanson. Donc forcément, si vous ancrez cette connaissance avant, mais je sais que vous l'avez déjà, vous n'allez pas être... Je pense pas, aujourd'hui, aucun de ceux qui écoutent ce podcast considère son corps comme une poubelle ou comme une benne à ordures. Donc ce conseil ne vous parlera pas trop. Mais c'est vrai que de savoir que la nourriture impacte notre fonctionnement, ça permet de savoir que quand on fait plaisir à nos sens, un peu moins à son corps, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant, parce que ça fait partie de la vie, les plaisirs. Voilà. Bon, bref, je m'arrête ici pour ce podcast. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes. Pour ceux qui me rejoignent de l'autre côté pour aller parler de nourriture à l'instinct, c'est le moment. Donc, le lien est en description. Et on se retrouve la semaine prochaine pour discuter d'un sujet que j'ai presque fini de préparer déjà, et on en parlera la semaine prochaine. Je vous dis à plus et très bonne fête à toutes et à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque que je... Alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmith.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.